nous détendre de la chaleur. On va voir l'histoire de Joseph. Ça termine la Genèse. Et c'est une histoire fabuleuse. Évidemment, qui annonce d'une façon tout à fait spéciale la vie de Jésus. Tout est ordonné dans la famille. Je voudrais que vous aimiez. Que vous aimiez beaucoup la Genèse pour en faire une théologie de la famille. Parce que je crois qu'on devrait en faire une théologie de la famille. Et c'est relativement facile. Ça demande un petit peu de sens profond, mais c'est relativement facile. Et je crois que ce serait très beau, parce que c'est peut-être la partie d'écriture, à part le Nouveau Testament, qui est le plus théologal, la Genèse. C'est ce que Dieu a soigné le plus, la famille. Et les oppositions du démon sont toujours à l'égard de la famille. La vie religieuse, c'est à partir de Nazareth, c'est à partir de Jésus, c'est la nouvelle famille. C'est pour ça que pour bien comprendre la vie religieuse, la néo-famille, la famille de Dieu, la famille du Christ, la famille de Marie. Il faut comprendre cette première famille qui est si extraordinaire. Alors, ça commence par chapitre 37. Et on est bien obligé de le regarder, parce que ce début est beau. Mais Jacob habita dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Joseph, âgé de 17 ans, était encore jeune, faisait paître le petit bétail avec ses frères, les fils de Bila et les fils de Silba, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise réputation. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Il était le fils de sa vieillesse. Il lui avait fait faire une tunique de longues manches. Et la tunique de Jésus, pour l'Antiquité, la tunique, ça fait partie du masque grec, analogiquement. Le masque, c'était le rôle que vous allez jouer. Bien, la tunique, c'était ça. Il avait fait une tunique à longue manche. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler amicalement. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères. Alors, premier manquement de prudence. Si vous avez des songes, surtout ne le racontez pas à vos frères. Racontez-les à votre père spirituel. Et lui, surtout, ne l'aide pas. Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères. Tout est parti de là. Alors, il y avait avant l'amour du père qui créait déjà le crime de haine, la jalousie. C'est très beau, ça. Et il leur dit, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, voici que nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe se leva et qu'elle se tint debout. Et voici que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. C'est gentil. Mais c'est terrible. Quand c'est mal reçu. Ses frères lui dirent, voudrais-tu régner sur nous en roi, ou bien nous dominer en maître? Et le haïr encore plus à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il leur dit, voici que j'ai eu encore un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il raconta cela à son père et à ses frères. Puis son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi? Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Ses frères étaient allés faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères te font-ils pas paître à Sichem? Viens, que je t'envoie vers eux. Il lui dit, me voici. Son père lui dit, va voir comment vont tes frères et comment va le troupeau et rapporte-moi des nouvelles. Il l'envoya. Il n'y avait pas encore le téléphone. Portatif de la vallée d'Hébron. Il arriva à Sichem. Un homme le trouva alors qu'il errait dans la campagne. Et cet homme lui demanda, que cherches-tu? Il dit, ce sont mes frères que je cherche. Indique-moi, je te prie, où ils font paître. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus qui disaient, allons à Dothan. Joseph s'en fut après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils rusèrent contre lui pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant donc, venez, tuons-le. Jetons-le dans une de ces citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qu'il en sera de ses songes. Alors oui, on voit la haine. C'est très rapide, hein, qui a monté dans la famille. Et comme dans la famille, tout est très passionnel, et ça, c'est resté, hein. Tout est très passionnel dès qu'il s'agit de l'héritage. C'est tellement rare, les familles qui restent unies après l'héritage. Parce qu'il y a toujours des histoires. Ruben entendit et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne le frappons pas à mort. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était afin de le délivrer de leurs mains pour le ramener à son père. Donc, lors donc que Joseph arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique à longues manches qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour prendre leur repas. Levant les yeux, ils virent qu'une caravane d'Asmites arrivèrent de Galade. Leurs chameaux étaient chargés de gomme à Dramon, de baume et de la dame. Ils allaient faire descendre en Égypte. Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à couvrir son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Passèrent des hommes de Madian, des commerçants qui retinrent Joseph. Et le firent remonter la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 sicles d'argent. Et on emmena Joseph en Égypte. Quand Ruben revint à la citerne, voilà que Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses habits et revenant vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je, moi ? Ils prirent la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. C'est très extraordinaire, hein ? Ce mélange dans le crime. Chacun a son idée. Et c'est par le sang qu'ils vont sauver Joseph. Il prit la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique à longue manche et la firent parvenir à leur père avec ces mots. Voici ce que nous avons trouvé. Examine bien si c'est la tunique de ton fils ou non. Effrayant, hein? Jusqu'où va la jalousie, le respect dû au père, l'amour vis-à-vis du frère, tout est abîmé. Il traite mentir au père de cette façon. C'est criminel, hein. Il orgeait un bouc, trempé à la tunique dans le sang. Il envoyait, voici ce que nous avons trouvé. Examine bien si c'est la tunique de ton fils ou non. Il l'examina et dit, la tunique de mon fils, une bête féroce a dévoré. Oui, Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et pendant de longs jours, menant le deuil de son fils et toutes ses filles entreprirent de le consoler, mais il refusa de se consoler. Il dit non, c'est dans le deuil que je descendrai auprès de mon fils, au Sheol. Et son père le pleura. Petite histoire après, familiale, hein? Parce qu'il y a des histoires familiales. On avait donc fait descendre Joseph en Égypte, Putiphar, eunuque du pharaon, commandant, c'est 39, commandant ismaélite, il avait fait descendre de là-bas. Yahvé fut avec Joseph. Il fut un homme qui réussit. Il était dans la maison de son maître. C'est curieux, l'Égyptien joue toujours un très rôle très important. Un rôle de rivalité et un rôle aussi de salut. C'est pas le peuple choisi par Dieu. Tandis qu'Israël est le peuple choisi par Dieu. Dieu veille sur lui en père. Et il y a toujours un rôle, une certaine alliance avec l'Égypte. Yahvé fut avec Joseph, il fut un homme qui réussit. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que Yahvé était avec lui et que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, Yahvé le faisait réussir en sa main. Et c'est beau comme tournure, hein? Remarquez, son maître vit que Yahvé était avec lui et que tout ce qu'il faisait, Yahvé le faisait réussir en sa main. Joseph trouva grâce à ses yeux et fut à son service. Putiphar le préposa à sa maison et lui confia tout ce qu'il avait. Or, du jour où il l'eut préposé à sa maison et établi sur tout ce qu'il aimait, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahvé fut sur tout ce qu'il avait à la maison et aux gens. Il abonda. Il abandonna tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Et avec lui, il ne s'occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu'il prenait. Joseph était bien fait, beau à voir. Et la réussite parfaite de Yahvé, il a pris sous sa protection. Or, après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». C'est rapide. Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici que mon maître, avec moi, ne s'occupe pas de ce qui est dans la maison. Il m'a confié tout ce qu'il a. Il n'a pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment donc ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Elle avait beau lui parler chaque jour, Joseph ne consentit pas à coucher à côté d'elle pour être avec elle. Or, certains jours, il était venu à la maison pour faire son travail et que personne des gens de la maison n'était là dans la maison. Elle le saisit par son habit en disant « couche avec moi ». Mais il abandonna son habit entre ses mains, prit la fuite et sortit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son habit entre ses mains, qu'il s'était enfui dehors, elle appela des gens de sa maison et leur dit « Voyez, on nous a amené un hébreu pour folâtrer avec nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. Leur nom qu'il a entendu et que j'élevais la voix et que j'appelais, il a abandonné son habit à côté de moi, a pris la fuite et il est sorti dehors. Mais c'est quand même très nettement la fidélité de Joseph qu'on souligne. Elle déposa l'habit de Joseph à côté d'elle, en attendant que son maître vînt à sa maison. Elle lui parla alors en ces termes, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour folâtrer avec moi. Mais quand j'ai élevé la voix et appelé, il a abandonné son habit à côté de moi. Et s'est enfui dehors. Notons que le maître de Joseph entendit les paroles que lui disait sa femme en ces termes. Voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi. Sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le prit et le mit dans le geôle, le lieu où étaient emprisonnés les prisonniers du roi. Joseph fut donc là, dans la geôle. Yahvé fut avec Joseph. Il inclina vers lui sa faveur et lui fut trouvé grâce aux yeux du chef de la geôle. Le chef de la geôle confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la geôle et tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il s'y faisait, c'est lui qui le faisait faire. Le chef de la geôle ne regardait rien de tout ce qui lui était confié, parce que Yahvé était avec lui, et ce qu'il faisait, Yahvé le faisait réussir. Et la main de Dieu, vraiment, Dieu conduit Joseph. Il y a toutes les histoires que les hommes peuvent faire. Or, après ces événements, les chansons du roi d'Égypte et le panier fautèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ses deux genoux, le grand échanson et le grand panier, et les mit en surveillance dans la maison du commandant des gardes, dans la geôle, le lieu où Joseph était emprisonné. Le commandant des gardes le rattacha à Joseph. Il fut à leur service et ils furent un certain temps en surveillance. Tous deux eurent un songe, chacun le sien. Même la même nuit, chaque songe ayant sa signification. Les chansons et le panier du roi d'Égypte qui était emprisonné dans la geôle. Lorsque Joseph entra chez eux le matin, il vit qu'ils étaient abattus. Il demanda aux eunuques du pharaon qui étaient avec lui en surveillance dans la maison. Pourquoi votre visage est-il triste aujourd'hui ? Et lui dire, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi donc. Le grand des chansons raconta à Joseph le songe qu'il avait eu. Il lui dit, voici que dans mon songe, il y avait devant moi un sceptre de vigne et sur le sceptre trois branches. Comme il bourgeonnait, sa fleur monta, ses grappes furent mûres, ses grappes firent mûrir des raisins. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai au-dessus de la coupe du pharaon et je plaçai la coupe sur la paume du pharaon. Joseph lui dit, en voici l'interprétation. Les trois pompes sont 3 jours, encore 3 jours, et pharaon relèvera la tête. Il te rétablira dans ta charge et tu placeras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu avais coutume de le faire précédemment, quand tu t'es son des chansons. Que si tu te souviens de ce que je fus avec toi, lorsqu'il t'arrivera du bien, témoigne envers moi. Je te prie, cette fidélité. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été réellement enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour qu'on m'ait mis en prison au cachot. Le grand bandit, voyant que l'interprétation était favorable, dit à Joseph, moi aussi dans mon songe, voici qu'il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait de tous les mets que fait le pantier pour Pharaon. Et les oiseaux les mangeaient de la corbeille dessus ma tête. Joseph prit la parole et dit, en voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête de dessus toi. Il te pendra un gibet, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. Agréable. Or, le 3e jour, qui était l'anniversaire de sa naissance, Pharaon fit un festin pour tous les serviteurs, et il revint la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans son office échanson, et celui-ci plaça la coupe sur la paume du pharaon. Quant au grand pantier, il le pendit, selon que lui avait interprété Joseph. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Or, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici qu'il se tenait près du Nil, et voici que du Nil montaient 7 vaches, belles d'aspect et grasses de chair, qui se mirent à paître dans les champs. Et voici que 7 autres vaches montaient du Nil après elles, laides d'aspect et maigres de chair, et elles se tinrent à côté des autres vaches sur la rive du Nil. Et les vaches, laides d'aspect et maigres de chair, dévorèrent les sauvages belles d'aspect et grâce. Alors Pharaon se réveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici que sept épis montaient sur une même tige, gras et bon. Et voici que sept épis maigres et brûlés par le vent d'est poussaient après eux. Et les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Alors Pharaon se réveilla, et voici que c'était un songe. Or, au matin, l'esprit troublé, il envoya appeler tous les magiciens d'Égypte et tous les sages de Pharaon. Il leur raconta le songe qu'il avait eu, mais personne ne put l'interpréter à Pharaon. Alors le grand échanson parla à Pharaon en ces termes : « Je vais rappeler mes fautes aujourd'hui. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait mis en surveillance dans la maison de commandant, le commandant des gardes, moi et le grand peintier. Nous eûmes un songe la même nuit, moi et lui. Nous eûmes un songe, chaque songe ayant sa signification. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du commandant des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et à nous, il interpréta. Il interpréta le songe de chacun. Or, selon ce qu'il nous avait interprété, ainsi en vue-t-il. Moi, on me rétablit dans ma charge. Lui, on le pendit. Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et entra chez Pharaon. Pharaon dit à Joseph : j'ai eu un songe. Il n'y a personne pour l'interpréter. Et moi, j'ai appris à ton sujet qu'il te suffit d'entendre un songe pour l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon en ces termes : ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra ce qui est salutaire pour Pharaon. Pharaon parla à Joseph en ces termes : dans mon songe, voici que je me tenais sur la rive du Nil. Et voici que le Nil montait, voici que du Nil montait sept vaches grasses de chair et bien faites qui se mirent à paître dans les champs. Et voici que sept autres vaches montaient après elles, grêles, très mal faites, minces de chair. Je n'avais pas vu dans tout le pays d'Égypte de pareil en laideur. Les vaches minces et laides dévorèrent les sept premières vaches, les grasses, et bien qu'elles fussent entrées dans leurs panses, on ne s'aperçut pas qu'elles étaient entrées dans leurs panses. Leur aspect était aussi laid qu'au début. Alors, je me réveillais. Je vis encore dans mon songe que sept épis montaient sur une même tige, plein et beau. Et voici que sept épis desséchés, maigres, brûlés par le vent, poussaient auprès d'eux. Et les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. J'ai dit cela au magicien, mais personne m'explique. Joseph dit au Pharaon : le songe du Pharaon est un. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont 7 années et 7 beaux épis sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches minces et laides qui montaient après elles sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'est ce seront 7 années de famine. C'est la parole que dit à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici venir 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Surgiront après elles 7 années de famine. On oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. On ne connaîtra plus l'abondance dans le pays à cause de cette famine qui suivra, car elle sera très grave. Et si le songe a été répété par 2 fois à Pharaon, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire. Et maintenant, que Pharaon discerne un homme intelligent et sage et qu'il l'établit sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse sur le pays d'Égypte, qu'il prépose des préposés sur le pays et qu'il prélève le 5e du pays d'Égypte lors des 7 années d'abondance. Que cela ramasse toutes les vivres de ces bonnes années qui viennent, qu'il entasse du froment sous l'autorité du pharaon, des vivres dans les villes et qu'il les garde. Ces vivres serviront de réserve pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura au pays d'Égypte. Et le pays ne sera plus supprimé par la famine. Le discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Après que Dieu l'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui sera à la tête de ma maison, tout mon peuple sera soumis à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph, c'est joli comme expression, hein, par le trône seulement, je serai plus grand que toi. On montre que c'est Joseph qui inspirera tout et que le roi, c'est la façade. Pharaon dit à Joseph, vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le second de ses chars et on cria devant lui à Braque. Ainsi le mit-il à la tête de tout le pays d'Égypte. Puis Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon. Sans toi, nul ne lèvera la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Saphna, Phénar, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de Dan. Joseph partit pour le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph partit de devant Pharaon et parcourut tout le pays. pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion. Il ramassa tous les vivres des 7 années. Il y eut abondance au pays d'Égypte. Et il les mit dans les villes, mettant à l'intérieur de chaque ville des vivres de la campagne environnante. Joseph entassa le froment comme le sable de la mer en très grande quantité. Alors après, c'est les années de famine. Alors 42. Jacob, voyant qu'il y avait du grain à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Qu'avez-vous à vous regarder ?» Puis il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du grain à vendre en Égypte. » Descendez-y et achetez-nous. De là-bas, pour que nous vivions et nous ne mourions pas. Les frères de Joseph, au nombre de 10, descendirent pour acheter du froment d'Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. Les fils d'Israël arrivèrent donc pour acheter du grain au milieu de ceux qui arrivaient, car c'était la famine au pays de Canaan. Or Joseph était le maître souverain du pays. C'est lui qui vendait le grain à tous les gens du pays. Les frères de Joseph arrivèrent donc et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit de leur être étranger. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils dirent du pays Canaan pour acheter des vivres. Ainsi, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour voir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Et lui dire non. Monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit non. C'est pour voir les points faibles du pays que vous êtes venus. Et dire tes serviteurs sont 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes des espions. Voici l'épreuve que vous allez subir par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous prendre votre frère pour vous rester prisonnier. Ainsi, vos dires seront éprouvés. On saura si la vérité est avec vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les retint en surveillance pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste prisonnier dans la maison où vous êtes en surveillance, et vous autres allez emmener du grain pour préserver vos familles de la faim. Et votre plus jeune frère, vous me l'amènerez. Alors, vos dires se trouveront vérifiés et vous ne mourrez pas. Ils firent ainsi et ils se dirent l'un à l'autre, hélas, nous sommes coupables à l'égard de notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous n'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous est venue cette détresse. Ruben la répliqua, ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre l'enfant, et vous n'avez pas écouté. Et voici que de son sang, il est demandé compte. Et eux ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux l'interprète. Joseph s'écarta d'eux et pleura. Mais il revint vers eux, il leur parla, il prit d'eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Vous voyez, c'est une histoire prophétique, très extraordinaire, de voir comment Dieu à travers tout, bénit Joseph, et comment Dieu corrigera, et nous verrons ça, parce que c'est quand même un des passages de l'Écriture les plus étonnants au point de vue gouvernement de Dieu. Et je crois quelque chose qui doit être pour nous très présent.